Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Renonces-tu au péché pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu ? Dis-je renonce.
Qui, moi ?
Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ?
Chemin vous accompagne du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. La partie la plus importante de l'inventaire psychique d'une civilisation n'a pas encore été mentionnée, écrit Freud à la fin du deuxième chapitre de L'avenir d'une illusion. Ce sont au sens le plus large ces idées religieuses, en d'autres termes que nous justifierons plus tard, ces illusions. Eh bien, prenons Freud au sérieux et examinons les arguments au nom desquels il affirme que la religion est une illusion. Aujourd'hui, après Totem et Tabou hier et avant Malaise dans la culture demain, j'ai le grand plaisir d'accueillir la philosophe et psychanalyste Clotilde Le Guil qui vient parcourir pour vous le texte de Freud, L'avenir d'une illusion. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle.
Les représentations religieuses qui se donnent pour des dogmes ne sont pas des précipités d'expérience ni des résultats d'une pensée. Ce sont des illusions, des accomplissements des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus urgents de l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. Nous savons déjà que c'est l'effrayante impression de désarroi chez l'enfant qui a suscité le désir de protection, protection par l'amour qu'a comblé le père, et que c'est la notion de la persistance de ce désarroi tout au long de la vie qui a fait se raccrocher à l'existence d'un père, mais désormais plus puissant. Du fait de l'action bienveillante de la providence divine, l'angoisse devant les dangers de la vie est apaisée. L'instauration d'un ordre éthique du monde assure que s'accomplisse l'exigence de justice restée si souvent inaccomplie au sein de la civilisation humaine. Le prolongement de l'existence humaine par une vie future fournit le cadre spatial et temporel dans lequel sont censés avoir lieu ces accomplissements de désir. Certaines réponses à des énigmes qui se posent au désir humain de savoir, comme celle de la naissance du monde et celle du rapport entre le corps et l'âme, sont développées selon les présupposés de ce système. C'est un immense soulagement pour la psyché individuelle lorsqu'elle est débarrassée des conflits infantiles issus du complexe du père et jamais entièrement surmontés, et qu'ils sont réorientés vers une solution admise par tous.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions?
Clotilde Le Guil, comment Freud peut-il affirmer dans le texte que nous venons d'entendre, interprété par Georges Clès, c'est un extrait du chapitre 6 de L'avenir d'une illusion, publié en 1927, d'un côté que les représentations religieuses sont des illusions, le dit clairement, et que de l'autre, ce sont l'accomplissement des désirs les plus anciens, les plus forts et les plus urgents de l'humanité. Ça semble contradictoire.
Alors, le texte que nous venons d'entendre, de l'avenir d'une illusion, c'est vrai que c'est un des textes les plus célèbres, enfin, les textes qui est les plus connus, hein, de l'avenir d'une illusion de Freud, parce qu'effectivement, il est le premier à formuler les choses ainsi, c'est-à-dire à interroger la genèse des représentations religieuses du point de vue de leur effet sur l'angoisse, en fait. Hein. Donc, à la fois Freud, on va en parler, mais dans l'avenir d'une illusion, il se situe dans une certaine tradition philosophique de critique de la religion, et lui-même le reconnaît, c'est-à-dire que avant lui, d'autres, on pourrait citer Kant, on pourrait citer Marx, voilà, on critiquait la religion. Mais ce que Freud apporte de nouveau avec la psychanalyse, c'est finalement une interrogation sur la force des représentations religieuses sur le sujet dans son rapport à l'angoisse. Hein. Et donc la thèse de Freud, c'est que, enfin, sa thèse, elle part d'un questionnement. Questionnement qu'on trouve dans les chapitres qui précèdent le chapitre 6, qui est finalement, on ne peut pas expliquer la force des représentations religieuses d'un point de vue rationnel. Il y a quelque chose dans les dogmes auxquels on adhère quand on est croyant, qui ne relève pas d'une démarche rationnelle, et donc la légitimité de ces représentations n'est pas de cet ordre-là. Et donc, finalement, ce qui intéresse Freud, c'est d'essayer de dévoiler ce qui ne se voit pas dans la croyance religieuse, c'est-à-dire sa source psychique intime. Et donc, sa thèse, en effet, qu'on trouve dans cette phrase qui est très belle, qui pourrait être une phrase de Pascal, presque, avec ce renversement, hein, quand il dit « d'où vient la force des représentations religieuses ?» Eh bien, le secret de leur force est la force de ses désirs. Donc déjà,
ces désirs, disons, c'est justement les désirs les plus anciens, les plus forts et les plus urgents de l'humanité.
Voilà, et il ne dit pas encore ce que c'est. Mais ce qui est quand même nouveau, et en relisant cette phrase avec vous aujourd'hui, Adèle, je m'aperçois aussi que ce qui est nouveau, c'est de parler de désirs à propos de la religion. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué non plus à articuler ensemble la question de la religion et la question du désir.
D'où ma question, voilà, exactement. C'est puisqu'il parle de désir et on sait à quel point, en psychanalyse, y compris dans les textes assez de Freud, le désir est primordial, et même tout ce qui compte.
C'est ça.
Eh bien, comment en vient-il à dire qu'à la fois la religion est l'expression d'un désir, le secret de la force et la force de ces désirs, et d'un autre côté que c'est une illusion, puisque les désirs sont l'inverse de l'illusion.
Oh ben, on sait bien qu'en même temps, les désirs peuvent engendrer des illusions. Mais donc là, disons, pour vraiment montrer à quel point cette affirmation de Freud est surprenante, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il n'aborde pas la religion par le biais de la contrainte, du devoir, de l'impératif. Il ne dit pas « on croit parce qu'on est obligé de croire ». Il dit « on croit parce qu'on veut croire, parce qu'on a besoin de croire et parce qu'on désire croire ». Donc, il essaye de penser cette adhésion à la religion vraiment à partir d'un consentement profond du sujet. Alors, finalement, la religion, nous dit-il, et il parle en particulier de la religion chrétienne, judéo-chrétienne, la religion satisfait un des désirs, dit-il, les plus profonds de l'humanité. Et les plus, il dit aussi, les plus urgents. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, non seulement c'est un des désirs les plus anciens et les plus profonds, mais aussi les plus urgents, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'urgence de la vie, avec le fait de devoir être protégé par une instance, être sauvé, disons, face au danger que l'on peut rencontrer dans l'existence. C'est comme ça, finalement, qu'il introduit la question du désir. Donc, quel est ce désir le plus profond, ou ces désirs les plus profonds et les plus urgents que finalement on rencontre en tout un chacun? Eh bien, Freud remonte finalement à l'origine de l'existence de l'être humain, hein, et ce dont il rend compte, c'est que nous sommes chacun confrontés à un moment à une détresse En allemand, le terme, c'est Hilflosigkeit, qui est un très beau terme. C'est un moment où on ne rencontre plus de secours, on ne rencontre plus d'aide. On peut penser à l'enfant qui appelle et qui crie. Et puis, ce jour-là, personne n'a répondu parce
d'ailleurs,
qu'on
le
l'a
parallèle
pas entendu.
Est fait directement par, fait par entre l'homme croyant en l'existence d'un dieu et un enfant qui se sentirait abandonné par ses parents.
Voilà, c'est ça. Et donc, là, l'être humain rencontre une expérience qui est angoissante et qui est insupportable, en fait, qui le laisse dans un état où il se sent abandonné et dans une solitude radicale. Et donc, ce que nous dit Freud, c'est que finalement, la religion, elle apporte une véritable consolation, ça se situe dans la lignée de Marx, mais il n'aborde pas cette consolation comme une consolation au niveau social. Hein. Elle apporte une consolation parce qu'elle propose cette idée que même lorsqu'on n'entend personne nous répondre, même dans le plus grand désarroi, même lorsque nous sommes confrontés à un deuil, lorsque nous sommes confrontés aux pires souffrances de l'existence, il existe un autre, un grand autre, on ne le voit pas, on n'entend pas, mais on peut quand même y croire, un grand autre qui est présent pour nous protéger.
Alors, il existe, ça c'est justement le postulat de l'homme, de la personne croyante, dire que ce Dieu existe. Ce qui est de surprenant, c'est de voir comment ce procédé que décrit Freud, effectivement, en faisant le parallèle entre la vie psychique d'un enfant qui ressent de l'angoisse lorsque ses parents disparaissent, et la vie psychique d'une société, puisque finalement la religion fonctionne à l'échelle d'une société, il y a une dimension collective.
C'est ça.
Comment est-ce qu'on on en a parlé un peu hier en évoquant le texte Thème et Tabou, où on montre comment justement un événement fondateur va créer une collectivité à part entière autour du meurtre originel du père. Mais là, en l'occurrence, dans lequel la religion, comment est-ce qu'un traumatisme infantile individuel peut donner lieu à une institution collective comme la religion.
Voilà, c'est ce qui est passionnant. Alors justement, comme vous prononcez, Adèle, le terme de collectivité, le texte qu'on peut citer entre Totem et Tabou et L'avenir d'une illusion, c'est Psychologie des foules et Analyse du moi. Donc, texte de 1921 de Freud, dans lequel, justement, il s'intéresse à la religion comme institution. Et c'est vraiment un texte, je pense, qui permet aussi de voir comment est-ce qu'il en arrive ensuite, en 1927, à l'avenir d'une illusion. Dans la psychologie des foules, donc, Freud s'intéresse, donc en allemand, c'est la Massenpsychologie, ça a aussi été traduit par psychologie des masses, donc il s'intéresse à la façon dont, finalement, en collectivité, il peut y avoir quelque chose qui relie les individus entre eux et qui transforme en quelque sorte leur psychisme. Donc, il reprend ce terme de psychologie des foules, des analyses de Gustave Le Bon. Mais lui, finalement, il apporte là aussi quelque chose de nouveau. Et quand il parle de l'Église chrétienne en particulier, donc il compare en fait l'Église et l'armée. Et donc, il dit finalement, qu'est-ce qui fait aussi finalement la force de ces institutions ? En ce qui concerne l'Église, qui fait la force pour Freud de l'Église chrétienne, c'est finalement qu'elle repose aussi sur une illusion, dit-il. Donc on a ce terme d'illusion déjà dans Psychologie des foules, Analyse du moi, laquelle elle repose sur l'illusion d'être aimés tous de façon égale par le Christ. Et au-delà du Christ, par le Père, par Dieu le Père. Et donc Freud dit finalement cette illusion d'être tous aimés de façon égale par un autre, permet de créer un lien de fraternité entre les êtres humains. Et il analyse cela à partir d'une certaine position dans laquelle finalement le Christ est mis pour chacun des croyants, qu'il appelle une position d'idéal du moi. C'est-à-dire ce qui relie tous les croyants, hein, c'est l'étymologie de la religion, c'est le relier, ce qui relie tous les croyants, eh bien, ce n'est pas tant, finalement, seulement un lien social, hein, mais ce qui relie tous les croyants, c'est un certain rapport à l'amour, hein, au fait de se sentir aimé, d'être aimé, de définir, finalement, son identité à partir du fait de se sentir aimé par eux-mêmes. Hein, et du coup, cela les fait frères entre eux. Et finalement, ce que nous dit Freud, c'est que cette illusion, hein, elle a un effet extrêmement puissant. Parce qu'en effet, ça marche. Hein, et effectivement, les croyants d'une même église se sentent frères entre eux. Donc en fait, cette illusion, elle repose sur une demande d'amour.
Hein. Mais oui, mais alors, mais en quoi l'illusion inhérente à l'institution religieuse que vous venez de décrire, Clotilde Le Guil, est-elle spécifique à la religion? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, dans cette logique-là, que toutes les institutions collectives relèvent d'une même illusion, un désir de justice qui va créer le droit, un désir, disons, de société qui va créer les mœurs et les coutumes. Voilà quelle est la spécificité de la religion dans cette procédure.
Alors, en tout cas, lui, dans Psychologie des foules, il aborde ensemble l'armée et l'Église. Ouais. Donc c'est très intéressant. Donc du côté de l'armée, ce qu'il met en avant, c'est aussi la figure du chef, du commandant en chef, qui... finalement est aussi dans cette position d'idéal du moi de chacun des soldats et qui fait que chacun des soldats se sent lié hein, par cet idéal du moi en commun. Et donc, alors peut-être que la différence dans l'armée, c'est que ce n'est pas l'amour qui prime, mais un rapport d'obéissance à une figure d'autorité.
C'est ça, idéal du moi et pas idéal du père. Parce que pourtant, dans les deux cas, c'est là un substitut de père, que ce soit Dieu ou le commandant dans l'armée. C'est volontairement une forme d'obéissance que l'on voue à quelqu'un qui nous est supérieur. Mais vous parlez, Freud parle d'idéal du moi.
Oui, alors ça, c'est dans Psychologie des foules, l'analyse moi, parce qu'en fait, il s'intéresse finalement au fait qu'on puisse voir dans un autre, qu'on admire finalement, ce qu'on aurait aimé être. Hein, c'est ça, l'idéal du moi, c'est une formation psychique pour Freud qui est issue à la fois de ce qu'on a été, la façon dont on a été aimé, c'est une formation issue du narcissisme, et en même temps ce qu'on n'est plus, ce qu'on a la nostalgie de ne plus être, et ce qu'on voudrait être. Hein. Et donc finalement c'est cette figure de l'idéal du moi qui permet de penser la fonction du lien pour Freud dans la psychologie des foules et la force de ce lien. Et c'est pourquoi Freud dit, bah, finalement, quand le leader disparaît, hein, finalement, que ce soit le Christ ou que ce soit le chef d'armée, eh bien, ce lien se déconstruit en même temps. Hein, et c'est même à l'occasion l'hostilité qui peut apparaître entre ceux qui étaient là, liés entre eux par le même idéal du moi. Parce qu'il faut cette fonction du leader qui incarne cet idéal du moi.
Oh non, non, je ne veux pas. Non, non, c'est ça, non, non, non. Mais je ne veux pas, allez-vous-en. Geneviève.
Mortem nostram sua morte. Défiché de Christus. La mort est vaincue, mon fils, pour le chrétien, pour le baptisé. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, et avec le péché, la mort. Par sa mort, Jésus nous a sauvés du péché. Ainsi nous a sauvés de la mort qui est fille du péché. Votre chère épouse n'est pas morte, mon enfant, puisqu'elle a été baptisée et lavée de la faute originelle. Elle n'est pas morte, elle tord, incorruptible. Il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour où elle se réveillera et où vous vous réveillerez avec elle pour paraître devant notre père et notre juge.
Non, mais c'est pas possible que ça soit fini. Je viens.
Oh. Gérard, laissez ça.
Je sais quoi. Je veux mourir.
C'est votre faute, monsieur l'abbé. Oui, c'est votre faute. Cette femme n'est pas morte du péché comme on meurt d'un mauvais rhume. Et son mari n'a que faire de vos paroles de résignation. Ceux qui pleurent leur mort, ce n'est pas dans 20 ans, ce n'est pas dans 1000 ans qu'ils espèrent les revoir. C'est maintenant. Tout ce que l'on attend de vous, c'est que vous disiez « Lève-toi et marche !» et que les morts se lèvent et qu'ils marchent. Alors si vous êtes incapable de faire revivre Geneviève Mazet, aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, vous n'avez rien à faire ici. Sortez ! Sortez !
Aucune prise sur les forces et les destins impersonnels. Ils restent éternellement étrangers. Mais si dans les éléments on voit se déchaîner des passions comme dans l'âme humaine, si même la mort n'est rien de spontané mais l'acte violent d'une volonté maligne, si l'on a partout dans la nature autour de soi des êtres tels qu'on en connaît dans la société humaine, alors on respire, on se sent chez soi dans ce qui angoissait par son étrangeté. On peut faire sur cette angoisse absurde un travail psychique. On est peut-être encore sans défense, mais on n'est plus paralysé par le désarroi. On peut au moins réagir, et peut-être n'est-on même pas sans défense. On peut recourir contre ces êtres surhumains et violents, là-dehors, aux moyens dont on se sert dans la société humaine. On peut tenter de les conjurer, de les apaiser, d'acheter leur faveur, et en les influençant de la sorte, on les prive d'une part de leur pouvoir. Remplacer ainsi une science exacte par de la psychologie n'apporte pas seulement un soulagement immédiat. Cela montre aussi la voie d'une autre façon de maîtriser la situation. Les dieux naissent d'un besoin, disiez-vous, Clotilde Le Guil. Les dieux ou le dieu, ça dépend des religions, hein, mais dans toutes les religions, on postule l'existence d'un dieu, peut-être par le besoin effectivement d'amour, c'est ce que vous disiez, mais aussi par difficulté à accepter la mort. Et l'extrait qu'on a entendu de La Chambre verte de François Truffaut le donnait bien à entendre, la révolte d'un homme qui vient de perdre son épouse face au curé qui lui promet qu'il va retrouver sa femme. Il dit oui, très bien, mais dans combien de temps ? C'est maintenant que j'aimerais être avec elle, donc vos promesses ne sont que des illusions, sans doute. S'explique par le texte de Freud que j'ai lu, le chapitre 3 de L'avenir d'une illusion, où il dit bien que ce mécanisme qui consiste à préférer tenir Dieu pour responsable du malheur qui nous arrive que l'absurdité de l'existence est complètement compréhensible parce qu'il est, c'est un processus psychologique qui est réconfortant, qui permet de respirer, nous dit Freud.
Voilà, c'est ça. Alors dans l'extrait que nous avons entendu de La Chambre verte de François Truffaut, ce qui est intéressant, c'est que c'est un extrait qui pourrait en effet tout à fait illustrer la position de Freud, et pourtant le héros qui est joué par François Truffaut dans La Chambre verte n'est pas du tout dans une position freudienne en réalité. Si vous vous souvenez, donc en fait, effectivement, on a entendu cet extrait où il se révolte contre le discours du prêtre, finalement, qui promet des retrouvailles, mais en même temps qui n'est pas capable effectivement
de ressusciter le corps,
comme dans cet autre film de Dreyer, vous savez, Hordette, où là on a vraiment une résurrection, un très, très beau film aussi sur la mort. Et donc, mais en même temps, pour autant, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que ce personnage de François Truffaut est un personnage qui s'invente une religion privée. Il refuse la religion chrétienne, la religion institutionnelle. Il refuse la psychologie des foules, pourrait-on dire, pour employer ce terme freudien. Et en fait, il s'invente une autre religion et qui consiste à ne pas faire le deuil. Parce qu'en fait, la question est là. La question est comment faire le deuil de l'être disparu? Comment vivre avec cette perte et avec ce trauma, comment vivre dans cette séparation, que faire avec le vide qu'a laissé l'être pour qui nous avions une place aussi centrale dans son existence. Et donc, si vous vous souvenez, la solution en fait que trouve le héros qui est joué par François Truffaut est une solution qui est assez mortifère, puisqu'en fait, elle consiste à se situer du côté des morts. Donc c'est une religion qu'il s'invente à lui-même. On pourrait dire qu'elle correspond un peu à cette phrase d'Auguste Comte qui dit que ce sont les morts qui gouvernent les vivants. Alors lui, il a décidé vraiment de faire de cette phrase, l'aphorisme de son existence, et il décide, tout en étant vivant, d'être du côté des morts et de vivre avec les morts, d'être mortifié. Et donc il s'invente une religion qui lui permet de continuer à garder auprès de lui non seulement le souvenir de ses morts, mais leur présence. Mais du coup, il est mort lui-même. Du coup, il renonce à sa vie en étant vivant. Et donc, à la fin, il y a une scène qui est extraordinaire où il dit mais parmi tous ces morts qui sont autour de moi, il manque quelqu'un. Il y a une place vide. Alors effectivement, c'est ce vide que lui ne peut pas affronter. Hein, et finalement, il rejoint les morts, lui-même meurt dans la dernière scène, comme pour combler ce vide, ce vide qu'il comble avec sa propre mort. Donc ce personnage-là pourrait illustrer, vous savez, il y a un texte de Freud dans l'interprétation des rêves sur un rêve très beau d'un fils qui a perdu son père et qui rêve de son père qui revient lui parler alors qu'il est déjà mort, et il rêve de cette phrase, ce fils en deuil, il rêve de cette phrase: il était mort, mais il ne le savait pas. Et il comprend, enfin, on ne sait pas sur qui porte cette phrase ? Est-ce que c'est le père ? Est-ce que c'est le fils ? Et en fait, finalement, dans ce personnage de François Truffaut, il est vivant, mais en fait, il est déjà mort et il ne le sait pas. Et il rejoint son être à la fin du film. Alors, la thèse de Freud, finalement, consiste à dire qu'il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie entre la religion qui offre une consolation en disant, bon, il y a une vie au-delà, il y a autre chose, il y a un ailleurs, il y a une transcendance, hein, et la voie quand même, quasiment mélancolique, qui est présentée par François Truffaut dans La Chambre verte, qui réside dans un déni de la mort, dans une impossibilité de faire le deuil, finalement, de l'être disparu. Et donc, du coup, de disparaître soi-même. Freud, lui, en ce sens, il est dans l'avenir d'une illusion, il est très optimiste. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'il y a de nombreux textes où il est pessimiste.
Le texte que j'ai lu est incroyable d'optimisme.
Voilà, il est optimiste au sens où il pense qu'il est possible pour l'être humain de se sevrer, en quelque sorte, de l'illusion religieuse pour affronter sa propre angoisse face à l'existence, face à la mort, face à la perte, face à sa propre angoisse par rapport à l'Hilflosigkeit, à la détresse psychique. Il est possible de l'affronter avec quoi ? Eh bien, c'est ce qu'il dit à la fin de l'avenir d'une illusion, c'est très beau, il dit avec un autre dieu qu'il appelle le dieu Logos. C'est-à-dire que c'est possible, là, il revient au grec, il est possible d'affronter cette angoisse avec la parole, avec le langage, c'est-à-dire, pour lui, avec la psychanalyse.
Je vous contredis lorsque vous concluez que l'homme ne peut absolument pas se passer du réconfort qu'apporte l'illusion religieuse, que sans elle, il ne supporterait pas le poids de la vie, la cruelle réalité. Eh oui, c'est le cas de l'homme auquel vous avez instillé dès l'enfance ce doux poison, doux ou doux amer. Mais l'autre homme, celui qui a grandi sans qu'on l'y fasse goûter, peut-être que, ne souffrant pas de la névrose, il n'a pas non plus besoin d'intoxication pour l'anesthésier. Certes, l'homme se trouvera alors dans une situation difficile. Il sera forcé de s'avouer l'ampleur de son désarroi, qu'il est quantité négligeable dans le mécanisme de l'univers, qu'il n'est plus le centre de la création, plus l'objet de la tendre sollicitude d'une providence bonne. Il sera dans la même situation que l'enfant qui a quitté la maison paternelle où il était tellement au chaud et se trouvait si bien. Mais n'est-il pas vrai que l'infantilisme est fait pour être dépassé ? L'être humain ne peut rester enfant éternellement, il faut qu'il finisse par sortir dans la vie hostile. On est en droit d'appeler cela l'éducation à la réalité. Ai-je besoin de vous révéler que l'unique intention de mon écrit est d'attirer l'attention sur la nécessité de ce progrès ? Vous craignez vraisemblablement que l'homme ne surmonte pas cette difficile épreuve. Eh bien, espérons néanmoins. C'est déjà quelque chose de savoir qu'on ne doit compter que sur sa propre force.
Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa roulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise, et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un peu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Qu'il est long, qu'il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et Joe Dassin. Il est 10h30 et c'est le second temps de notre série d'émissions consacrée au texte de Freud sur la religion, après Totem et Tabou hier, avant Malaise dans la culture ou dans la civilisation sur les traductions demain, mercredi. Et bien aujourd'hui, c'est de l'avenir d'une illusion que nous parlons, en compagnie de Clotilde Le Guil, qui est philosophe et psychanalyste et à qui on doit une édition de L'avenir d'une illusion en point seuil.
Roule encore la vieille de mon père. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin.
On a vu hier comment le meurtre du père est à l'origine du totémisme et donc de la préhistoire de la religion, Clotilde Leguil. On a vu comment le... Enfin, on l'a peut-être pas assez dit, mais comment dans ce texte, L'avenir d'une illusion, Freud fait le parallèle entre l'absence, le manque du père réel de l'enfant et du coup la décision sans doute inconsciente de substituer ce père-là par Dieu le Père, donc par Dieu qui incarne à sa façon le père de l'enfant, donc du croyant. Dans le texte qu'on a entendu, c'était assez clair, il dit bien, mais l'être humain, n'est-il pas vrai que l'infantilisme est fait pour être dépassé? Et c'est en ce sens qu'il faut dépasser ce que Freud appelle la religion et en venir à ce que vous disiez, à la psychanalyse finalement, qui est une autre manière de sortir de l'enfance.
Oui, alors il est vrai que dans ce texte, Freud à nouveau est très optimiste et on peut se demander même s'il n'est pas un peu idéaliste, parce que finalement... on taxe souvent Freud d'avoir finalement promu le père comme étant une référence essentielle pour l'existence, mais finalement là dans l'avenir d'une illusion, on aperçoit que Freud croit dans la possibilité de concevoir une existence sans père, en quelque sorte, ou sans croyance, disons, dans ce père qui protège, ce père tout-puissant, ce grand autre sans faille, qui pourrait nous assurer aussi d'un sens de notre existence. Parce que c'est là aussi que réside finalement la difficulté du renoncement à la religion. Et ça renvoie au texte qu'on avait lu précédemment également. C'est-à-dire que ce que la religion apporte, c'est non seulement un apaisement par rapport à l'angoisse et à la détresse, mais c'est aussi l'idée qu'il existe un sens déjà là, et que l'existence, en quelque sorte, n'a qu'à se lever dans ce sens qui existe déjà et qui permettrait de réconcilier le bonheur et la vertu, comme dirait Kant, et qui ferait que finalement, si nous agissons bien, nous serons récompensés et nous obtiendrons de surcroît le bonheur. Et donc, Freud pense que finalement, la religion par là même inhibe les forces de la pensée, inhibe l'action, inhibe les forces créatrices, et donc on a intérêt finalement à dépasser cette croyance dans cette instance d'un grand autre, pour ne compter que sur soi, hein, c'est ce qu'il disait dans le passage.
À la fin
passage,
du texte, c'est déjà quelque chose de savoir qu'on ne doit compter que sur sa propre force.
Voilà.
Mais c'est facile à dire, on a envie d'objecter à Freud.
C'est ça.
Il suffit de décider de ne plus croire en Dieu pour ne plus y croire, déjà.
Oui.
Et ce qu'il suffit de décider une fois pour toutes qu'on va compter sur sa propre force et pas celle d'un père, d'une mère ou d'un substitut de père.
Oui, alors Freud ne dit pas que c'est facile, parce qu'il dit aussi on ne peut forcer personne à croire et on ne peut forcer personne à ne pas croire.
Ne plus croire.
Hein, ça ne réside pas, disons, effectivement dans une décision rationnelle. Mais il y a une forme d'optimisme, finalement, qui, dans la quatrième de couverture d'un texte de Lacan qui a été édité par Jacques-Alain Miller dit à propos de l'avenir d'une illusion que Freud est vraiment s'y montre comme un vieil optimiste des Lumières. C'est-à-dire qu'il pense quand même dans les forces de la raison. C'est ça qui est étonnant, en fait, dans ce texte de l'avenir d'une illusion, c'est qu'il pense que la raison l'emportera sur les pulsions. Et c'est pas du tout la position qu'il aura ensuite dans le malaise dans la civilisation, où là il montre qu'il y a quelque chose de la pulsion de mort qui l'emporte en quelque sorte dans la civilisation. Et donc, à cet égard, donc Freud a intitulé son texte « L'avenir d'une illusion », indiquant par là qu'il pensait peut-être que cette illusion avait peu d'avenir, justement, n'avait pas d'avenir, en fait. Hein. Donc, indiquant par là qu'un monde peut-être sans religion serait possible. Et c'est pas du tout la position de Lacan, en 1974, qui dira au contraire que ce à quoi on assiste, c'est au triomphe de la religion. Hein, dans une conférence qu'il fait en 74, il dit, bon, en fait, c'est le triomphe de la religion, c'est-à-dire qu'il prend le contre-pied de Freud. Pourquoi est-ce qu'on assiste au triomphe de la religion? Parce que, effectivement, la science, le progrès scientifique et technique ne suffit pas à donner un sens, mais déconstruit tout sens, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'être humain se retrouve de plus en plus déboussolé, hein, du fait de cette transformation du monde qui fait disparaître toute référence à la nature pour substituer des objets techniques qui deviennent des prolongations de notre propre corps. Et donc, ce que dit Lacan, et bien justement, plus on sera finalement dans ce monde du progrès technique et du scientisme, plus on aura besoin de religion, parce que la religion, elle apportera un sens à ce qui n'en aura plus du tout.
Mais est-ce que Freud ne serait pas d'accord avec lui sur cette question? Parce qu'il y a aussi une lecture possible de l'avenir d'une illusion qui consiste à voir dans ce texte une forme de légitimation de cette illusion en ce qu'elle est nécessaire à la société, parce qu'elle permet, Freud le dit lui-même, de respirer mieux, de se sentir chez soi dans ce qui angoissait avant par son étrangeté, et que finalement, de même que Pascal ne dénonce pas le divertissement, mais plutôt en montre les vertus parce qu'il permet à l'homme de rester en vie. Lui-même, l'homme, dit Pascal, son plus grand malheur vient du fait qu'il ne veut pas rester seul dans une chambre, donc il se divertit pour l'oublier. Et finalement, il n'a pas vraiment le choix, c'est son seul viatique pour accepter l'existence humaine. De même, on pourrait aussi considérer que Freud a une forme de tendresse malgré tout devant cette nécessité qu'a l'homme de s'inventer une histoire, de croire en une illusion pour tenir bon.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Adèle Madrette, parce que justement, l'avenir d'une illusion est construit, enfin, Freud l'a écrit en se faisant à lui-même des objections, en s'inventant un adversaire qui viendrait justement défendre la religion. Et en même temps, je pense que ce qu'il met aussi dans la bouche de cet adversaire, ce sont évidemment des objections qui renvoient à un questionnement de Freud. C'est-à-dire, Freud se demande quand même, en même temps qu'il écrit l'avenir d'une illusion, qu'est-ce qu'il est en train de faire à vouloir à tout prix déconstruire finalement la puissance de la religion pour lui substituer autre chose, un certain rapport à la raison dont on n'est pas sûr qu'il puisse de la même façon créer un lien social entre les individus. Je pense que effectivement Freud a conscience en même temps, bien qu'il parle de l'avenir d'une illusion, je pense qu'il a conscience de la force de la religion et peut-être de sa nécessité à certains égards.
J'ai lu Freud, je sais ce qu'il pense et que pense certainement Madame C. Qu'il serait certes très beau qu'il existe un Père Tout-Puissant et une Providence qui prennent soin de chacun de nous, mais qu'il est tout de même curieux que cette construction corresponde si exactement à ce que nous pouvons désirer quand nous sommes enfants. Que la racine du désir religieux est la nostalgie du Père et le fantasme en faute enfantin d'être le centre du monde. J'ai lu Nietzsche et je ne peux pas nier que je me suis senti visée quand il dit que le grand avantage de la religion est de nous rendre intéressants à nous-mêmes et de nous permettre de fuir la réalité. Cependant, je pensais, oui, bien sûr, on peut dire que Dieu est la réponse que nous donnons à notre angoisse, mais on peut dire aussi que notre angoisse est le moyen dont il se sert pour se faire connaître de nous. Oui, bien sûr, on peut dire que je me suis convertie parce que je désespérais. Mais on peut dire aussi que Dieu, pour me convertir, m'a accordé la grâce du désespoir. C'est ce que je veux penser de toutes mes forces, que l'illusion, ce n'est pas la foi, comme le croit Freud, mais ce qui fait douter d'elle, comme le savent les mystiques. Je veux penser cela, je veux le croire, mais j'ai peur de cesser de le croire. Et je me demande si vouloir tellement le croire, ce n'est pas la preuve que déjà on n'y croit plus. C'est Emmanuel Carrère qui, dans son roman Le Royaume, propose ce récit, sans doute, qui fait appel à la fiction, mais à la limite, peu importe, hein, d'une psychanalyse avec Madame C, alors que lui-même se découvre croyant, religieux, et qui s'adresse directement à Freud dans ce texte en disant l'illusion, ce n'est pas la foi, l'illusion, c'est le fait de douter d'elle. Et ce renversement me paraît extrêmement pertinent, puisqu'il montre que finalement, c'est dans la psychanalyse que ce doute va pouvoir s'exprimer, que l'on peut croire et accepter de mettre en doute cette foi parce qu'on la reconnaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas une vérité absolue, Clotilde Lequille.
Oui, ce qui m'a beaucoup plu dans le récit d'Emmanuel Carrère, dans Le Royaume, c'est la façon dont il présente sa rencontre avec la psychanalyse, en même temps finalement que son aspiration à la sainteté, d'une certaine façon. Il traverse, et c'est le début du roman, donc il traverse une crise existentielle profonde, une remise en question de son couple, une difficulté à écrire, enfin... Tout d'un coup, finalement, il y a quelque chose qu'il déteste dans ce qu'il est devenu et dans son impuissance, en quelque sorte, créatrice. Et donc, il est profondément attiré par la conversion parce qu'il il voit dans le discours chrétien aussi peut-être un discours qui soulage, mais un discours qui répond finalement à une question qu'il se pose sur sa propre jouissance, en fait. Finalement, il a besoin de trouver un discours qui lui donne une place là où il ne trouve plus de place, en quelque sorte. Et donc, il voudrait faire partie du royaume. Il se demande comment faire partie du royaume alors que son monde est déconstruit, alors que qu'il n'y a plus rien ne fait monde pour lui, finalement. Et donc là, eh bien, le royaume se présente comme une possibilité, comme une respiration. Et j'aime beaucoup la façon dont il décrit son appel à la psychanalyse, parce que finalement, il montre que, dans un premier temps, il n'a pas été question de choisir. Il a eu la chance de rencontrer une psychanalyste qui lui a dit « Mais voilà, votre rapport à la religion... c'est votre affaire, vous poursuivez. » Voilà. Alors, il venait en séance pour parler finalement de sa croyance et de son choix de se convertir au christianisme. Et en même temps, il a commencé une analyse et on y parlait d'autre chose. Et donc, je trouve que c'est très beau parce qu'il montre que finalement, la question qui le travaillait et qui l'a conduit à aspirer à la sainteté est une question qu'il a pu aussi poser en analyse.
On ne saurait mieux le situer, objectivement, cet analyste, que ce qui dans le passé s'est appelé être un saint. Un saint, durant sa vie, n'impose pas le respect que lui vaut parfois une auréole. Un saint, pour me faire comprendre, ne fait pas la charité. Plutôt se met-il à faire le déchet. Il décharite, quoi. Ce pour réaliser ce que la structure impose, à savoir permettre au sujet de l'inconscient, le prendre pour cause de son désir. C'est de l'abjection de cette cause, en effet, que le sujet en question a chance de se repérer, au moins dans la structure, et supporter cette abjection pour le saint, c'est pas drôle, hein? Mais j'imagine que, pour quelques oreilles, au moins à cette télé, ça recoupe bien des étrangetés, ce que j'appellerais les faits de saint.
Et oui, même les lapsus de Lacan sont délicieux, Clotilde Lequille. Alors quand on l'entend comparer le psychanalyste à un saint, on s'interroge. Quand Freud propose de sortir de l'infantilisme que perpétue la religion dans et par la psychanalyse, donc de substituer le discours à l'illusion, on se demande, est-ce que finalement il va pas juste remplacer une religion par une autre ?
C'est curieux, cette comparaison que propose Lacan entre le psychanalyste et le saint. Moi aussi, quand je l'ai découverte, ça m'a vraiment étonnée. Et il faut voir quelle définition Lacan donne du saint, finalement. Il dit, bon, le saint, pour lui, c'est pas celui qui va avoir une auréole au-dessus de sa tête. C'est celui qui a renoncé à la jouissance. C'est comme ça qu'il définit la sainteté. Et donc, s'il rend compte de la position de l'analyste par analogie avec la position du saint, c'est parce que l'analyste lui-même, dans sa fonction d'analyste, quand il écoute, quand il entend celui qui s'adresse à lui, est dans une position de renoncement à toute jouissance. Il n'est pas là pour jouir, pour éprouver du plaisir à ce qu'il entend, ni de la honte, ni de la souffrance, ni de la gêne. Hein. Il y a une sorte de il incarne en fait une surface totalement lisse, hein, et il est censé ne rien éprouver. Alors, c'est possible ça, ne rien éprouver? Eh bien, ce que nous dit Lacan, c'est que finalement, ça s'apparente à cette position de sainteté, au sens où une analyse, disons, qui serait vraiment menée à son terme et qui conduirait à devenir analyste, permet à un sujet d'occuper cette place-là pour l'autre. Alors, il dit aussi, dans un autre sens, pour expliquer ce que veut dire cette comparaison avec le saint, il dit aussi que l'analyste est le bouc émissaire. Hein, pourquoi c'est le bouc émissaire? C'est parce que c'est celui qui prend sur lui les péchés de l'autre. Parce que qu'est-ce qu'on vient déposer en analyse? Qu'est-ce qu'on vient dire à un analyste? Finalement, c'est toute cette horreur, toute cette merde qui nous empêche de vivre et qui nous dégoûte et dont on voudrait se débarrasser, finalement. Hein, on vient lui demander de nous aider par rapport à ça.
Comme un croyant le fait à l'égard de Dieu. C'est pour ça, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une religion de la psychanalyse?
Alors, pour Lacan, c'est pas tout à fait la même chose, parce que justement, la psychanalyse est une démarche déjà personnelle. On n'est pas pris dans une collectivité, on cherche pas une solution collective à son malaise. On cherche finalement à saisir, de la façon la plus singulière qui soit, hein, les causes en quelque sorte de sa souffrance.
Problems of today lead them to conclude that for them life is not the way. But every problem has an answer, and if yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind. When you feel your life's too hard, just go have a talk with God.
Merci à vous, Clotilde Leguil, d'être venue nous parler de l'avenir d'une illusion aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je renvoie les auditeurs à l'édition que vous avez présentée et annotée de l'avenir d'une illusion. C'est en Point Seuil. Et puis de vous, on peut également lire L'être et le genre, Homme-femme après Lacan, c'est au PUF, ainsi que Les amoureuses, Voyage au bout de la féminité, un ouvrage disponible au Seuil. Have a talk with God, interprétez la chanson Stevie Wonder comme vous voulez, soit parler à Dieu le Père ou à Dieu votre psychanalyste. Libre à vous de choisir. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h49 minutes bientôt. Il est l'heure de retrouver les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous venez nous parler d'un livre qui vient de paraître et qui a attiré votre attention, et cette fois c'est Pensée avec Fukushima.
Exactement, c'est un ouvrage collectif sous la direction de Christian Doumé et Michael Ferrier, et c'est paru aux éditions Cécile Defaux.
C'était le début de l'après-midi. Les Japonais travaillaient, faisaient leurs courses ou promenaient les enfants. La secousse a été ressentie sur des centaines de kilomètres. Elle a déplacé le pays de 2 mètres, une magnitude exceptionnelle, 3 précédents seulement en un siècle. Cet habitant du nord-ouest de Tokyo a tout filmé chez lui. Il était à l'étage quand la terre s'est mise à trembler.
Le 11 mars 2011, la Terre a donc tremblé. Un séisme de magnitude 9, un tsunami dévastateur frappant 600 km de côte et faisant près de 18 500 morts et un accident nucléaire de niveau 7. Pour parler de Fukushima, on peut rappeler les faits comme je viens de le faire, mais a-t-on tout dit pour autant de cette catastrophe? Et d'ailleurs, peut-on tout dire d'une catastrophe? Alors dans cet ouvrage collectif qui est passionnant, qui est paru donc aux éditions Cécile Defaux, Michael Ferrier, dans son introduction, le dit, Fukushima est comme une sorte de modèle de la catastrophe et même de toute crise. On n'en finit pas de la vivre, de la comprendre, d'en sentir les effets. La Terre n'en finit donc pas de trembler. D'où ce titre pour cet ouvrage, Penser avec Fukushima et non pas après Fukushima. Alors à défaut de passer à autre chose, de dépasser la catastrophe, comment la penser et comment la vivre? Comment envisager le temps, l'espace, les concepts, le langage? Quand toutes les conditions pour penser et vivre sont ainsi abolies, comment remettre sur pied la pensée avec ce qui par définition renverse tout, c'est-à-dire la catastrophe? Et bien dans un des articles consacrés à la manière dont Fukushima reconfigure notre rapport à l'espace, François Bizet propose pour sa part le concept de l'inhabitat, ce qui ne désigne pas un territoire impossible à occuper à cause de la catastrophe, mais un territoire où il est au contraire possible de vivre malgré elle. Penser que l'on peut, doit, veut penser malgré la catastrophe pousse alors à proposer à notre tour le concept d'impensé. L'impensé, car la catastrophe oblige à penser là où on n'a pas l'habitude. Alors que l'on envisage toujours le pire à venir ou que l'on tire des conclusions des événements, c'est au jour le jour au présent qu'il faut désormais apprendre à penser.
Merci Géraldine, c'est donc Penser avec
Fukushima. C'est sous la direction de Christian Doumé et Michael Ferrier et c'est aux éditions Cécile Defaux.
Avec beaucoup de contributeurs.
Avec beaucoup de contributeurs, c'est un ouvrage passionnant.
Merci à vous. Et merci à vous Clotilde Le Guil qui êtes restée en studio avec nous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à Freud et la religion, au texte que Freud a écrit sur la religion. Après Totem et Tabou hier, l'avenir d'une illusion aujourd'hui, demain ce sera malaise dans la culture ou malaise dans la civilisation, on verra s'il y a une différence ou pas entre les deux termes. En tout cas, ce sera le philosophe Pierre Pellegrin qui viendra vous en parler. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, eh bien sachez que c'est possible et très simple. En vous rendant sur le site de France Culture, la page des Nouveaux Chemins, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure et le jour de votre choix. Et puis rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.